Chapitre 17. De l'armée française pendant la Terreur, des fédéralistes et de la Vendée. La conduite de l'armée française pendant le temps de la Terreur a été vraiment patriotique. On n'a point vu de généraux traîtres à leur serment envers l'État. Ils repoussaient les étrangers, tandis qu'ils étaient eux-mêmes menacés de périr sur l'échafaud, au moindre soupçon suscité contre leur conduite. Les soldats n'appartenaient point à tel ou tel chef, mais à la France. La patrie ne consistait plus que dans les armées, mais là, du moins, elle était encore belle, et ses bannières triomphantes servaient, pour ainsi dire, de voile au forfait commis dans l'intérieur. Les étrangers étaient forcés de respecter le rempart de fer qu'on opposait à leur invasion. Et bien qu'ils se soient avancés jusqu'à 30 lieues de Paris, un sentiment national, encore dans toute sa force, ne leur permit pas d'y arriver. Le même enthousiasme se manifestait dans la marine. L'équipage d'un vaisseau de guerre, le Vengeur, foudroyé par les Anglais, répétait comme en concert le cri de « Vive la République !» en s'enfonçant dans la mer, et les chants d'une joie funèbre semblaient retentir encore du fond de l'abîme. L'armée française ne connaissait pas alors le pillage, et ses chefs marchaient quelquefois comme les plus simples soldats à la tête de leurs troupes, parce que l'argent leur manquait pour acheter des chevaux dont ils auraient eu besoin. Dugommier, général en chef de l'armée des Pyrénées, à l'âge de 60 ans, partit de Paris à pied pour aller rejoindre ses troupes sur la frontière d'Espagne. Les hommes que la gloire des armes a tant illustrés depuis se distinguaient aussi par leur désintéressement. Ils portaient sans rougir des habits usés par la guerre, et plus honorables 100 fois que les broderies et les décorations de toute espèce dont, plus tard, on les a vus chamarrés. Les républicains honnêtes, mêlés à des royalistes, résistèrent avec courage au gouvernement conventionnel, à Toulon, à Lyon et dans quelques autres départements. Ce parti fut appelé du nom de fédéraliste. Mais je ne crois pas, cependant, que les Girondins ou leurs partisans aient jamais conçu le projet d'établir un gouvernement fédératif en France. Rien ne s'accordait plus mal avec le caractère de la nation, qui aime l'éclat et le mouvement. Il faut pour l'un et l'autre une ville qui soit le foyer des talents et des richesses de l'Empire. On peut avoir raison de se plaindre de la corruption d'une capitale et de tous les grands rassemblements d'hommes en général. Telle est la condition de l'espèce humaine. Mais on ne saurait guère ramener en France les esprits à la vertu que par les lumières et le besoin des suffrages. L'amour de la considération ou de la gloire, dans ses différents degrés, peut seul faire remonter graduellement de l'égoïsme à la conscience. D'ailleurs, l'état politique et militaire des grandes monarchies qui environnent la France exposerait son indépendance, si l'on affaiblissait sa force de réunion. Les Girondins n'y ont point songé. Mais, comme ils avaient beaucoup d'adhérents dans les provinces, où l'on commençait à acquérir des connaissances en politique, par le simple effet d'une représentation nationale, c'est dans les provinces que l'opposition aux tyrans factieux de Paris s'est montrée. C'est vers ce temps aussi qu'a commencé la guerre de la Vendée, et rien ne fait plus d'honneur au parti royaliste que les essais de guerre civile qu'il fit alors. Le peuple de ces départements sut résister à la Convention et à ses successeurs pendant près de 6 années. Ayant à sa tête des gentilshommes qui tiraient leurs plus grandes ressources de leur âme. Les républicains comme les royalistes ressentaient un profond respect pour ces guerriers citoyens, Lescure, La Roche-Jacquelin, Charette, etc., quelles que fussent leurs opinions, accomplissaient un devoir auquel tous les Français, dans ce temps, pouvaient se croire tenus également. Le pays qui a été le théâtre de la guerre vendéenne et coupé par des haies destinées à enclore les héritages. Ces haies paisibles servirent de boulevard aux paysans devenus soldats. Ils soutinrent un à un la lutte la plus dangereuse et la plus hardie. Les habitants de ces campagnes avaient beaucoup de vénération pour les prêtres, dont l'influence a fait du bien alors. Mais, dans un état où la liberté subsisterait depuis longtemps, l'esprit public n'aurait pas besoin d'être excité que par des institutions politiques. Les Vendéens ont, il est vrai, demandé dans leur détresse quelque secours à l'Angleterre, mais ce n'étaient que des auxiliaires et non des maîtres qu'ils acceptaient, car leur force était de beaucoup supérieure à celle qu'ils empruntaient des étrangers. Ils n'ont donc point compromis l'indépendance de leur patrie. Aussi les chefs de la Vendée sont-ils considérés même par le parti contraire. Ils s'expriment sur la Révolution avec plus de mesure que les émigrés d'outre-Rhin. Les Vendéens, s'étant battus pour ainsi dire corps à corps avec les Français, ne se persuadent pas aisément que leurs adversaires n'aient été qu'une poignée de rebelles qu'un bataillon aurait pu faire rentrer dans le devoir. Et comme ils ont eu recours eux-mêmes à la puissance des opinions, ils savent ce qu'elles sont et reconnaissent la nécessité de transiger avec elles. Un problème encore reste à résoudre. C'est comment il se peut que le gouvernement de 1793 et 1794 ait triomphé de tant d'ennemis. La coalition de l'Autriche, de la Prusse, de l'Espagne, de l'Angleterre, la guerre civile dans l'intérieur, la haine que la Convention inspirait à tout ce qui restait encore d'hommes honnêtes hors des prisons. Rien n'a diminué la résistance contre laquelle les étrangers ont vu leurs efforts se briser. Ce prodige ne peut s'expliquer que par le dévouement de la nation à sa propre cause. 1 million d'hommes s'armèrent pour repousser les forces des coalisés. Le peuple était animé d'une fureur aussi fatale dans l'intérieur qu'invincible au dehors. D'ailleurs, l'abondance factice, mais inépuisable, du papier-monnaie, le bas prix des denrées, l'humiliation des propriétaires, qui en étaient réduits à se condamner extérieurement à la misère, tout faisait croire aux gens de la classe ouvrière que le joug de la disparité des fortunes allait enfin cesser de peser sur eux. Cet espoir insensé doublait les forces que la nature leur a données. Et l'ordre social, dont le secret consiste dans la patience du grand nombre, parut tout à coup menacé. Mais l'esprit militaire, n'ayant pour but alors que la défense de la patrie, rendit le calme à la France en la couvrant de son bouclier. Cet esprit a suivi sa noble direction jusqu'au moment où, comme nous le verrons dans la suite, un homme a tourné contre la liberté même des légions sorties de terre pour la défendre. Chapitre 18. De la situation des amis de la liberté hors de France pendant le règne de la Terreur. Il est difficile de raconter ces temps horribles sans se rappeler vivement ses propres impressions, et je ne sais pas pourquoi l'on combattrait ce penchant naturel, car la meilleure manière de représenter des circonstances si extraordinaires, c'est encore de montrer dans quel état elles mettaient les individus au milieu de la tourmente universelle. L'émigration, pendant le règne de la Terreur, n'était plus une mesure politique. L'on se sauvait de France pour échapper à l'échafaud, et l'on n'y pouvait rester qu'en s'exposant à la mort, pour éviter la ruine. Les amis de la liberté étaient plus détestés par les jacobins que les aristocrates eux-mêmes, parce qu'ils avaient lutté de près les uns contre les autres, et que les jacobins craignaient les constitutionnels, auxquels ils croyaient une influence encore assez forte sur l'esprit de la nation. Ces amis de la liberté se trouvaient donc presque sans asile sur la terre. Les royalistes purs ne manquaient point à leurs principes en se battant avec les armées étrangères contre leur pays. Mais les constitutionnels ne pouvaient adopter une telle résolution. Ils étaient proscrits par la France et mal vus par les anciens gouvernements de l'Europe, qui ne les connaissaient guère que par les récits des Français aristocrates, leurs ennemis les plus acharnés. Je cachai chez moi, dans le pays de Vaud, quelques amis de la liberté, respectables à tous égards, et par leur rang et par leur vertu. Et comme on ne pouvait obtenir des autorités suisses d'alors une permission en règle pour autoriser leur séjour, ils portaient des noms suédois que M. de Staël leur attribuait pour avoir le droit de les protéger. Les échafauds étaient dressés pour eux sur la frontière de leur patrie, et des persécutions de tout genre les attendaient sur la terre étrangère. Ainsi des religieux de l'ordre de la Trappe se sont vus détenus dans une île, au milieu d'une rivière qui sépare la Prusse de la Russie. chacun des deux pays se les renvoyait comme des pestiférés, et cependant on ne pouvait leur reprocher que d'être fidèles à leurs vœux. Une circonstance particulière peut aider à peindre cette époque de 1793, où les périls se multipliaient à chaque pas. Un jeune gentilhomme français, M. Achille Duchella, neveu du comte de Jaucourt, voulut sortir de France avec un passeport suisse que nous lui avions envoyé, pour le sauver sous un nom supposé, car nous nous croyons très permis de tromper la tyrannie. À Moret, ville frontière située au pied du mont Jura, on soupçonna M. Duchella de n'être pas ce que son passeport indiquait, et on l'arrêta, en déclarant qu'il resterait prisonnier jusqu'à ce que le lieutenant Baïval de Nyon attestât qu'il était suisse. M. de Jaucourt demeurait alors chez moi, sous l'un de ces noms suédois dont nous étions les inventeurs. À la nouvelle de l'arrestation de son neveu, son désespoir fut extrême, car ce jeune homme, alors de la réquisition, porteur d'un faux passeport, et de plus fils d'un des chefs de l'armée de Condé, devait être fusillé à l'instant même si l'on devinait son nom. Il ne restait qu'un espoir, c'était d'obtenir de M. Reverdil, lieutenant Baïval à Nyon, de réclamer M. Duchella comme véritablement natif du pays de Vaud. J'allais chez M. Reverdil pour lui demander cette grâce. C'était un ancien ami de mes parents, et l'un des hommes les plus éclairés et les plus considérés de la Suisse française. M. Reverdil avait été choisi pour présider à l'éducation du roi de Danemark. Il a écrit, pendant son séjour dans le Nord, des mémoires d'un grand intérêt sur les événements dont il a été témoin. Ces mémoires n'ont pas encore paru. Il me refusa d'abord en m'opposant des motifs respectables. Il se faisait scrupule d'altérer la vérité, pour quelque objet que ce pût être. Et de plus, comme magistrat, il craignait de compromettre son pays par un acte de faux. Guillemets. Si la vérité est découverte, me disait-il, nous n'aurons plus le droit de réclamer nos propres compatriotes, qui peuvent être arrêtés en France. Et j'expose ainsi l'intérêt de ceux qui me sont confiés, pour le salut d'un homme auquel je ne dois rien. Fin des guillemets. Cet argument avait un côté très plausible, mais la fraude pieuse que je sollicitais pouvait seul sauver la vie d'un homme qui avait la hache meurtrière suspendue sur sa tête. Je restai 2 heures avec M. Reverdil, cherchant à vaincre sa conscience par son humanité. Il résista longtemps. Mais quand je lui répétais plusieurs fois, « Si vous dites non, un fils unique, un homme sans reproche, est assassiné dans 24 heures, et votre simple parole le tue, mon émotion, ou plutôt la sienne, triompha de toute autre considération, et le jeune Duchella fut réclamé. C'est la première fois qu'il se soit offert à moi une circonstance dans laquelle 2 devoirs luttaient, l'un contre l'autre, avec une égale force. Mais je pense encore, comme je pensais il y a 23 ans, que le danger présent de la victime devait l'emporter sur les dangers incertains de l'avenir. Il n'y a pas, dans le court espace de l'existence, une plus grande chance de bonheur que de sauver la vie à un homme innocent. Et je ne sais comment l'on pourrait résister à cette séduction, en supposant que, dans ce cas-là, c'en soit une. Hélas, je ne fus pas toujours si heureuse dans mes rapports avec mes amis. Il me fallut annoncer, peu de mois après, à l'homme le plus capable d'affection, et par conséquent de douleur profonde, à M. Mathieu de Montmorency, l'arrêt de mort prononcé contre son jeune frère, l'abbé de Montmorency, dont le seul tort était l'illustre nom qu'il avait reçu de ses ancêtres. Dans ce même temps, la femme, la mère et la belle-mère de M. de Montmorency étaient également menacées de périr. Encore quelques jours, et tous les prisonniers étaient à cette époque affreuse, envoyés à l'échafaud. L'une des réflexions qui nous frappait le plus, dans nos longues promenades sur les bords du lac de Genève, c'était le contraste de l'admirable nature dont nous étions environnés, du soleil éclatant de la fin de juin, avec le désespoir de l'homme, ce prince de la terre, qui aurait voulu lui faire porter son propre deuil. Le découragement s'était emparé de nous. Plus nous étions jeunes, moins nous avions de résignation, car dans la jeunesse, surtout, on s'attend au bonheur. L'on croit en avoir le droit, et l'on se révolte à l'idée de ne pas l'obtenir. C'était pourtant dans ces moments mêmes, lorsque nous regardions en vain le ciel et les fleurs, que nous leur reprochions d'éclairer et de parfumer l'air en présence de tant de forfaits. C'était alors pourtant que se préparait la délivrance. Un jour, dont le nom nouveau déguise peut-être la date aux étrangers, le 9 Thermidor, porta dans le cœur des Français une émotion de joie inexprimable. La pauvre nature humaine n'a jamais pu devoir une jouissance si vive qu'à la cessation de la douleur. Chapitre 19. Chute de Robespierre et changement de système dans le gouvernement. Les hommes et les femmes que l'on conduisait à l'échafaud faisaient preuve d'un courage imperturbable. Les prisons offraient l'exemple des actes de dévouement les plus généreux. On vit des pères s'immoler pour leurs fils, des femmes pour leurs époux. Mais le parti des honnêtes gens, comme le roi lui-même, ne se montra capable que des vertus privées. En général, dans un pays où il n'y a point de liberté, l'on ne trouve d'énergie que dans les factieux. Mais, en Angleterre, l'appui de la loi et le sentiment de la justice rendent la résistance des classes supérieures tout aussi forte que pourrait l'être l'attaque de la populace. Si la division ne s'était pas mise entre les députés de la Convention eux-mêmes, on ne sait combien de temps l'atroce gouvernement du Comité de salut public aurait duré. Ce comité n'était point composé d'hommes d'un talent supérieur. La machine de terreur, dont les ressorts avaient été montés par les événements, exerçait seule la toute-puissance. Le gouvernement ressemblait à l'affreux instrument qui donnait la mort. On y voyait la hache plutôt que la main qui la faisait mouvoir. Il suffisait d'une question pour renverser le pouvoir, c'était « Combien sont-ils ?» Mais on mesurait leur force à l'atrocité de leurs crimes, et personne n'osait les attaquer. Ces 12 membres du comité de salut public se défiaient les uns des autres, comme la Convention se défiait d'eux, comme ils se défiaient d'elle, comme l'armée, le peuple et les révolutionnaires se craignaient mutuellement. Aucun nom ne restera de cette époque, excepté Robespierre. Il n'était cependant ni plus habile ni plus éloquent que les autres, mais son fanatisme politique avait un caractère de calme et d'austérité qui le faisait redouter de tous ses collègues. J'ai causé une fois avec lui chez mon père, en 1789, lorsqu'on ne le connaissait que comme un avocat de l'Artois, très exagéré dans ses principes démocratiques. Ses traits étaient ignobles, son teint pâle, ses veines d'une couleur verte. Il soutenait les thèses les plus absurdes avec un sang-froid qui avait l'air de la conviction. Et je croirais assez que, dans les commencements de la Révolution, il avait adopté de bonne foi, sur l'égalité des fortunes aussi bien que sur celle des rangs, de certaines idées attrapées dans ses lectures, et dont son caractère envieux et méchant s'armait avec plaisir. Mais il devint ambitieux lorsqu'il eut triomphé de son rival en démagogie, Danton, le Mirabeau de la populace. Ce dernier était plus spirituel que Robespierre, plus accessible à la pitié. Mais on le soupçonnait, avec raison, de pouvoir être corrompu par l'argent, et cette faiblesse finit toujours par perdre les démagogues, car le peuple ne peut souffrir ceux qui s'enrichissent. C'est un genre d'austérité dont rien ne saurait l'engager à se départir. Danton était un factieux, Robespierre un hypocrite. Danton voulait du plaisir, Robespierre seulement du pouvoir. Il envoyait à l'échafaud les uns comme contre-révolutionnaires, les autres comme ultra-révolutionnaires. Il y avait quelque chose de mystérieux dans sa façon d'être, qui faisait planer une terreur inconnue au milieu de la terreur ostensible que le gouvernement proclamait. Jamais il n'adopta les moyens de popularité généralement reçus, alors. Il n'était point mal vêtu, au contraire. Il portait seul de la poudre sur ses cheveux. Ses habits étaient soignés, et sa contenance n'avait rien de familier. Le désir de dominer le portait, sans doute, à se distinguer des autres, dans le moment même où l'on voulait en tout l'égalité. L'on aperçoit aussi les traces d'un dessein secret dans les discours embrouillés qu'il tenait à la Convention, et qui rappellent, à quelques égards, ceux de Cromwell. il n'y a guère cependant qu'un chef militaire qui puisse devenir dictateur. Mais alors le pouvoir civil était bien plus influent que le pouvoir militaire. L'esprit républicain portait à la défiance contre tous les généraux victorieux. Les soldats eux-mêmes livraient leur chef aussitôt qu'il s'élevait la moindre inquiétude sur leur bonne foi. Les dogmes politiques, si ce nom peut convenir à de tels égarements, régnaient alors, et non les hommes. On voulait quelque chose d'abstrait dans l'autorité, pour que tout le monde fût censé y avoir pris part. Robespierre avait acquis la réputation d'une haute vertu démocratique. On le croyait incapable d'une vue personnelle. Dès qu'on l'en soupçonna, sa puissance fut ébranlée. L'irréligion la plus indécente servait de levier au bouleversement de l'ordre social. Il y avait une sorte de conséquence à fonder le crime sur l'impiété. C'est un hommage rendu à l'union intime des opinions religieuses avec la morale. Robespierre imagina de faire célébrer la fête de l'être suprême, se flattant sans doute de pouvoir appuyer son ascendant politique sur une religion arrangée à sa manière, ainsi que l'ont fait souvent ceux qui ont voulu s'emparer de l'autorité. Mais, à la procession de cette fête impie, il s'avisa de passer le premier pour s'arroger la prééminence sur ses collègues, et dès lors il fut perdu. L'esprit du moment et les moyens personnels de l'homme ne se prêtaient point à cette entreprise. D'ailleurs, on savait qu'il ne connaissait d'autre moyen d'écarter ses concurrents que de les faire périr par le tribunal révolutionnaire, qui donnait au meurtre un air de légalité. Les collègues de Robespierre, non moins abominables que lui, Collot d'Herbois, Billaud Varennes, l'attaquèrent pour se sauver eux-mêmes. L'horreur du crime ne leur inspira point cette résolution. Ils pensaient à tuer un homme, mais non à changer de gouvernement. Il n'en était pas ainsi de Tallien, l'homme du neuf Thermidor, ni de Barras, chef de la force armée ce jour-là, ni de plusieurs autres conventionnels qui se réunirent à eux contre Robespierre. Ils voulurent, en le renversant, briser du même coup le sceptre de la terreur. On vit donc cet homme qui avait signé pendant plus d'une année un nombre inouï d'arrêts de mort, couché, tout sanglant, sur la table même où il apposait son nom à ses sentences funestes. Sa mâchoire était brisée d'un coup de pistolet. Il ne pouvait pas même parler pour se défendre, lui qui avait tant parlé pour proscrire. Ne dirait-on pas que la justice divine ne dédaigne pas, en punissant, de frapper l'imagination des hommes par toutes les circonstances qui peuvent le plus agir sur elle? Chapitre 20. De l'état des esprits au moment où la République directoriale s'est établie en France. Le règne de la terreur doit être uniquement attribué au principe de la tyrannie. On l'y retrouve tout entier. Les formes populaires adoptées par ce gouvernement n'étaient qu'une sorte de cérémonial qui convenait à ces despotes farouches. Mais les membres du comité de salut public professait à la tribune même le code du machiavélisme, c'est-à-dire le pouvoir fondé sur l'avilissement des hommes. Ils avaient seulement soin de traduire en termes nouveaux ces vieilles maximes. La liberté de la presse leur était bien plus odieuse encore qu'aux anciens états féodaux ou théocratiques. Ils n'accordaient aucune garantie aux accusés, ni par les lois, ni par les juges. L'arbitraire sans borne était leur doctrine. Il leur suffisait de donner pour prétexte à toutes les violences le nom propre de leur gouvernement, le salut public, funeste expression, qui renferme le sacrifice de la morale à ce qu'on est convenu d'appeler l'intérêt de l'État, c'est-à-dire aux passions de ceux qui gouvernent. Depuis la chute de Robespierre jusqu'à l'établissement du gouvernement républicain sous la forme d'un directoire, il y a eu un intervalle d'environ 15 mois qu'on peut considérer comme la véritable époque de l'anarchie en France. Rien ne ressemble moins à la terreur que ce temps, quoiqu'il se soit encore commis bien des crimes alors. On n'avait point renoncé au funeste héritage des lois de Robespierre, mais la liberté de la presse commençait à renaître, et la vérité avec elle. le vœu général était de fonder des institutions sages et libres, et de se débarrasser des hommes qui avaient gouverné pendant le règne du sang. Toutefois, rien n'était si difficile que de satisfaire à ce double désir, car la Convention tenait encore l'autorité dans ses mains, et beaucoup d'amis de la liberté craignaient que la contre-révolution n'eût lieu, si l'on ôtait le pouvoir à ceux dont la vie était compromise par le rétablissement de l'ancien régime. C'est une pauvre garantie, cependant, que celle des forfaits qu'on a commis au nom de la liberté. Il s'ensuit bien qu'on redoute le retour des hommes qu'on a fait souffrir. Mais on est tout prêt à sacrifier ses principes à sa sûreté, si l'occasion s'en présente. Ce fut donc un grand malheur pour la France que d'être obligée de remettre la République entre les mains des conventionnels. Quelques-uns étaient doués d'une grande habileté, mais ceux qui avaient participé au gouvernement de la Terreur devaient nécessairement y avoir contracté des habitudes serviles et tyranniques tout ensemble. C'est dans cette école que Bonaparte a pris plusieurs des hommes qui, depuis, ont fondé sa puissance. Comme il cherchait avant tout un abri, il n'était rassuré que par le despotisme. La majorité de la Convention voulait punir quelques-uns des députés les plus atroces qu'il avait opprimés. Mais elle traçait la liste des coupables d'une main tremblante, craignant toujours qu'on ne pût l'accuser elle-même des lois qui avaient servi de justification ou de prétexte à tous les crimes. Le parti royaliste envoyait des agents au dehors et trouvait des partisans dans l'intérieur, par l'irritation même qu'excitait la durée du pouvoir conventionnel. Néanmoins, la crainte de perdre tous les avantages de la Révolution rattachait le peuple et les soldats à l'autorité existante. L'armée se battait toujours contre les étrangers avec la même énergie, et ses exploits avaient déjà obtenu une paix importante pour la France, le traité de Bâle avec la Prusse. Le peuple aussi, on doit le dire, supportait des maux inouïs avec une persévérance étonnante. La disette, d'une part, et la dépréciation du papier-monnaie, de l'autre, réduisaient la dernière classe de la société à l'état le plus misérable. Si les rois de France avaient fait subir à leurs sujets la moitié de ces souffrances, on se serait révolté de toutes parts. Mais la nation croyait se dévouer à la patrie, et rien n'égale le courage inspiré par une telle conviction. La Suède ayant reconnu la République française, M. de Staël résidait à Paris comme ministre. J'y passai quelques mois pendant l'année 1793, et c'était vraiment, alors, un spectacle bien bizarre que la société de Paris. Chacun de nous sollicitait le retour de quelques émigrés de ses amis. J'obtins à cette époque plusieurs rappels. En conséquence, le député Legendre, homme presque du peuple, fit une dénonciation contre moi à la tribune de la Convention. L'influence des femmes, l'ascendant de la bonne compagnie, ce qu'on appelait vulgairement les salons dorés, semblait très redoutable à ceux qui n'y étaient point admis et dont on séduisait les collègues en les y invitant. L'on voyait, les jours de décade, car les dimanches n'existaient plus, tous les éléments de l'ancien et du nouveau régime réunis dans les soirées, mais non réconciliés. Les élégantes manières des personnes bien élevées perçait à travers l'humble costume qu'elle gardait encore, comme au temps de la Terreur. Les hommes convertis du parti jacobin entraient pour la première fois dans la société du grand monde, et leur amour-propre était plus ombrageux encore, sur tout ce qui tient au bon ton qu'ils voulaient imiter, que sur aucun autre sujet. Les femmes de l'ancien régime les entouraient pour en obtenir la rentrée de leurs frères, de leurs fils, de leurs époux, et la flatterie gracieuse dont elle savait se servir venait frapper ses rudes oreilles et disposait les factieux les plus acerbes à ce que nous avons vu depuis, c'est-à-dire à refaire une cour, à reprendre tous ces abus, mais en ayant grand soin de se les appliquer à eux-mêmes. Les apologies de ceux qui avaient pris part à la Terreur étaient vraiment la plus incroyable école de sophisme à laquelle on put assister. Les uns disaient qu'ils avaient été contraints à tout ce qu'ils avaient fait, et l'on aurait pu leur citer 1000 actions spontanément serviles ou sanguinaires. Les autres prétendaient qu'il s'était sacrifié au bien public, et l'on savait qu'il n'avait songé qu'à se préserver du danger. Tous rejetaient le mal sur quelques-uns. Et, chose singulière dans un pays immortel par sa bravoure militaire, plusieurs des chefs politiques donnaient simplement la peur comme une excuse suffisante de leur conduite. Un conventionnel très connu me racontait un jour, entre autres, qu'au moment où le tribunal révolutionnaire avait été décrété, il avait prévu tous les malheurs qui en sont résultés. Et cependant, ajoutait-il, le décret passa dans l'Assemblée à l'unanimité. Or, il assistait lui-même à cette séance, votant pour ce qu'il regardait comme l'établissement de l'assassinat juridique. Mais il ne lui venait pas seulement dans l'esprit, en me racontant ce fait, que l'on pût s'attendre à sa résistance. Une telle naïveté de bassesse laisse ignorer jusqu'à la possibilité de la vertu. Les Jacobins qui avaient trempé personnellement dans les crimes de la terreur, tels que Le Bon, Carrier, etc., se faisaient presque tous remarquer par le même genre de physionomie. On les voyait lire leurs plaidoyers avec une figure pâle et nerveuse, allant d'un côté à l'autre de la tribune de la Convention, comme un animal féroce dans sa cage. Était-il assis, il se balançait, sans se lever ni changer de place, avec une sorte d'agitation stationnaire qui semblait indiquer seulement l'impossibilité du repos. Au milieu de ces éléments dépravés, il existait un parti de républicains, débris de la Gironde, persécutés avec elle, sortant des prisons ou des cavernes, qui leur avaient servi d'asile contre la mort. Ce parti méritait de l'estime à beaucoup d'égards, mais il n'était pas guéri des systèmes démocratiques. Et de plus, il avait un esprit soupçonneux, qui lui faisait voir partout des fauteurs de l'ancien régime. Louvel, l'un de ces Girondins, échappé à la proscription, l'auteur d'un roman, Faublas, que les étrangers prennent souvent pour la peinture des mœurs françaises, était républicain de bonne foi. Il ne se fiait à personne. Il appliquait à la politique le genre de défaut qui a fait le malheur de la vie de Jean-Jacques. Et plusieurs hommes de la même opinion lui ressemblaient à cet égard. Mais les soupçons des républicains, en France, tenaient d'abord à ce qu'ils ne pouvaient faire adopter leurs principes exagérés, et secondement, à une certaine haine contre les nobles, dans laquelle ils se mêlaient de mauvais mouvements. On avait raison de ne pas vouloir de la noblesse en France, telle qu'elle existait jadis. Mais l'aversion contre les gentilshommes n'est qu'un sentiment subalterne qu'il faut savoir dominer, pour organiser la France d'une manière stable. L'on vit proposer cependant en 1793 un plan de constitution républicaine, beaucoup plus raisonnable et mieux combiné que la monarchie décrétée par l'Assemblée constituante en 1791. Boissy d'Anglas, Daunoux et Lanjuinais, noms qu'on retrouve toujours quand un rayon de liberté luit sur la France, étaient membres du comité de constitution. On osa proposer deux chambres, sous le nom de Conseil des Anciens et de Conseil des 500. Des conditions de propriété pour être éligibles. 2 degrés d'élection, ce qui n'est pas une bonne institution en soi-même, mais ce que les circonstances rendaient nécessaire alors pour relever les choix. Enfin, un directoire composé de 5 personnes. Ce pouvoir exécutif n'avait point encore l'autorité nécessaire pour maintenir l'ordre. Il lui manquait plusieurs prérogatives indispensables et dont la privation amena, comme on le verra dans la suite, des convulsions destructives. L'essai d'une république avait de la grandeur. Toutefois, pour qu'il pût réussir, il aurait fallu peut-être sacrifier Paris à la France et adopter des formes fédératives, ce qui, nous l'avons dit, ne s'accorde ni avec le caractère ni avec les habitudes de la nation. D'un autre côté, l'unité du gouvernement républicain paraît impossible, contraire à la nature même des choses dans un grand pays. Mais, du reste, l'essai a surtout manqué par le genre d'hommes qui ont exclusivement occupé les emplois. Le parti auquel ils avaient tenu pendant la terreur les rendait odieux à la nation. Ainsi l'on jeta trop de serpents dans le berceau d'Hercule. La Convention, instruite par l'exemple de l'Assemblée constituante, dont l'ouvrage avait été renversé parce qu'elle l'avait abandonné trop tôt à ses successeurs, rendit les décrets du 5 et du 13 Fructidor, qui maintenaient dans leur place les deux tiers des députés existants. Mais on convint cependant que l'un des tiers restants serait renouvelé dans 18 mois, et l'autre un an plus tard. Ce décret produisit une sensation terrible dans l'opinion, et rompit tout à fait le traité tacitement signé entre la Convention et les honnêtes gens. On voulait pardonner aux conventionnels, pourvu qu'ils renonçassent au pouvoir. Mais il était naturel qu'ils voulussent le conserver, au moins comme sauvegarde. Les Parisiens furent un peu trop violents dans cette circonstance, et peut-être l'envie d'occuper toutes les places, passion qui commençait à fermenter dans les esprits, les aigrit-elle alors. On savait pourtant que des hommes très estimables étaient désignés comme devant être directeurs. Les conventionnels voulaient se faire honneur par de bons choix, et peut-être était-il sage d'attendre le terme fixé pour écarter légalement et graduellement le reste des députés. Mais il se mêla des royalistes dans le parti qui ne voulait que s'approprier les places de la République. Et comme il est constamment arrivé depuis 25 ans, du moment où la cause de la Révolution parut compromise, ceux qui la défendaient eurent pour eux le peuple et l'armée, les faubourgs et les soldats. C'est alors que l'on vit s'établir, entre la force populaire et la force militaire, une alliance qui rendit bientôt celle-ci maîtresse de l'autre. Les guerriers français, si admirables dans la résistance qu'ils opposaient aux puissances coalisées, se sont faits, pour ainsi dire, les janissaires de la liberté chez eux. Et, s'immisçant dans les affaires intérieures de la France, ils ont disposé de l'autorité civile et se sont chargés d'opérer les diverses révolutions dont nous avons été les témoins. Les sections de Paris, de leur côté, ne furent peut-être pas exemptes de l'esprit de faction, car la cause de leur tumulte n'était pas d'un intérêt public urgent, puisqu'il suffisait d'attendre 18 mois pour qu'il ne restât plus un conventionnel en place. L'impatience les perdit. Elles attaquèrent l'armée de la Convention le 13 Vendémiaire, et l'issue ne fut pas douteuse. Le commandant de cette armée était le général Bonaparte. Son nom parut pour la première fois dans les annales du monde le 13 Vendémiaire, 4 octobre 1795. Il avait déjà contribué, mais sans être cité, à la reprise de Toulon en 1793, lorsque cette ville se révolta contre la Convention. Le parti qui renversa Robespierre l'avait destitué après le 9 Thermidor. Et n'ayant alors aucune ressource de fortune, il présenta un mémoire au comité du gouvernement pour aller à Constantinople former les Turcs à la guerre. C'est ainsi que Cromwell voulut partir pour l'Amérique dans les premiers moments de la Révolution d'Angleterre. Barras, depuis directeur, s'intéressait à Bonaparte et le désigna dans les comités de la Convention pour la défendre. On prétend que le général Bonaparte a dit qu'il aurait pris le parti des sections si elle lui avait offert de commander leur bataillon. Je doute de cette anecdote. Non que le général Bonaparte ait été, dans aucune époque de la Révolution, exclusivement attaché à une opinion quelconque, mais parce qu'il a eu toujours trop bien l'instinct de la force pour avoir voulu se mettre du côté nécessairement alors le plus faible. On craignait beaucoup à Paris que le lendemain du 13 Vendémiaire, le règne de la terreur ne fut rétabli. En effet, ces mêmes conventionnels, qui avaient cherché à plaire quand ils se croyaient réconciliés avec les honnêtes gens, pouvaient se porter à tous les excès, en voyant que leurs efforts pour faire oublier leur conduite passée étaient sans fruit. Mais les vagues de la Révolution commençaient à se retirer, et le retour durable du jacobinisme était déjà devenu impossible. Cependant, il résulta de ce combat du 13 Vendémiaire que la Convention se fit un principe de nommer 5 directeurs qui eussent voté la mort du roi. Et comme la nation n'approuvait en aucune manière cette aristocratie de régicide, elle ne s'identifia point avec ses magistrats. un résultat non moins fâcheux de la journée du 13 vendémiaire, ce fut un décret du 2 Brumaire qui excluait de tout emploi public les parents des émigrés et tous ceux qui, dans les sections, avaient voté pour des projets liberticides. Telle était l'expression du jour, car en France, à chaque révolution, on rédige une phrase nouvelle qui sert à tout le monde pour que chacun ait de l'esprit ou du sentiment tout fait, si par hasard la nature lui avait refusé l'un et l'autre. Le décret d'exclusion du 2 Brumaire faisait une classe de proscrits dans l'État, ce qui certes ne vaut pas mieux qu'une classe de privilégiés, et ce n'est pas moins contraire à l'égalité devant la loi. Le directoire était le maître d'exiler, d'emprisonner, de déporter à son gré les individus désignés comme attachés à l'Ancien Régime, les nobles et les prêtres, auxquels on refusait le bienfait de la Constitution en les plaçant sous le joug de l'arbitraire. Une amnistie accompagne d'ordinaire l'installation de tout gouvernement nouveau. Ce fut, au contraire, une proscription en masse qui signala celle du directoire. Quel danger présentait tout à la fois à ce gouvernement les prérogatives constitutionnelles qui lui manquaient et la puissance révolutionnaire dont on avait été prodigue envers lui.